Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette heure de débat. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, nous débattons avec Virginie Le Guay. Bonjour Virginie, chef adjoint au service politique de Paris Match. La une de match, c'est quoi? Je ne l'ai pas vu passer.
Surprise, ah, allez dans les kiosques.
Oui, c'est Stéphane Bern, voilà, j'ai failli vous piéger. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, bonjour.
Bonjour.
Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, bonjour Kevin.
Bonjour.
Et Alexis Bachelet, ancien député PS,
bonjour.
Et vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, et c'est AB Consulting, pas mal de sujets, déconfinement enfin libre, toujours avec évidemment le respect des mesures barrières. Vous pouvez commenter, nous dire si vous êtes satisfait des annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre. 0826 300 300. On va parler de Gérard Collomb qui se rallie à LR. Ça a beaucoup animé hier les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le début d'un certain nombre de ralliements, de rapprochements pour la campagne des municipales? Et puis, j'avais envie de vous entendre sur cette proposition d'Éric Ciotti qui a peu de chances de passer à l'Assemblée, mais il propose d'interdire de filmer les policiers qui sont en intervention dans la rue sur les réseaux sociaux. Bref, pas mal de sujets avec vous aujourd'hui. Petit tour de table sur ce qui a retenu notre attention, votre attention aux uns et aux autres. Peut-être que on peut dire quelques mots de Guy Bedos. Je cite un de nos auditeurs qui dit: il est venu dans ma petite ville, petite salle, public très proche. Il est très très différent de l'image qu'il avait à la télévision. Une tendresse, un regard, une fragilité. Il a défendu les ouvriers. Oui, il était à gauche, c'est sûr. Virginie, vous le connaissiez, vous l'aviez rencontré?
Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'étais très touchée par ce que j'avais compris de son histoire familiale. Il a eu des rapports extrêmement difficiles avec sa mère. Il en a gardé une fragilité très forte tout au long de sa vie. Il avait ce besoin éperdu d'amour. Et j'ai été assez, impressionnée par sa droiture. C'est-à-dire qu'il était très engagé en politique, il ne s'en cachait pas, mais il était de cette génération qui croyait que la politique allait changer les cours des choses. Et il était toujours déçu, y compris à gauche, qui était pourtant dans son camp de cœur, il était toujours déçu de voir que non, la politique n'arrivait pas à changer les choses, et il était toujours en demande, toujours ardent. Jusqu'au bout, il est resté très ardent, et de cela, il était très sympathique.
Ouais. Qui veut réagir?
En fait, moi, j'ai eu la chance d'assister à son dernier spectacle, parce que vous savez que je crois que c'était en 2011, il a quitté la scène publique, il a décidé d'arrêter sa carrière sur un dernier one-man show, et il avait fait la première répétition de son dernier one-man show à Colombes, dans ma commune, dans la salle de l'avant-scène, et on avait eu la chance, nous, de l'avoir dans les répétitions, donc on l'avait un petit peu côtoyé, et puis après, pendant le spectacle. Et donc c'est vrai que moi je trouve que c'est une belle personnalité, quelqu'un qui a marqué plusieurs générations de Français, et puis qui a réussi sa sortie. C'était assez émouvant parce qu'il avait 80 ans et il commençait son spectacle en étant allongé sur la scène, et il s'est levé d'un seul coup et il disait pas mal pour un vieux. Et donc j'avais trouvé ça c'était aussi un peu de l'autodérision. Il voulait dire que il approchait d'un âge, on ne pouvait plus faire des prouesses physiques et que c'était sa dernière prouesse physique en scène. Et donc c'était assez émouvant de le voir dans son dernier spectacle, qui était en fait la revue de presse, ce qui avait fait, un peu sa notoriété dans la deuxième partie de sa carrière. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait du cinéma, qui a fait de la chanson, qui a fait énormément de choses, une vie incroyable.
Jackie, un mot?
Oui, pour compléter, il a traversé nos vies. Hein. C'est vrai que du sketch avec Sophie Daumier, qui est devenue son épouse, ou qui a été son épouse. Non, parce que j'appréciais beaucoup, en relève de ce que disait tout à l'heure un des auditeurs, ou en tout cas le témoignage que vous citiez, c'est toujours d'essayer de mesurer dans ces gens très connus qui traversent notre quotidien leur relation à leurs proches. Et j'étais très ému, même si j'étais pas toujours un fan de Bedos, par la relation qu'il avait avec son fils. Et des gens qui, comme ça, arrivent à rester proches des leurs, alors qu'on sait que c'est difficile d'être le fils ou la fille de quelqu'un de très célèbre. LCP diffusait il y a quelques temps un portrait de Simenon. On sait que ça a été très compliqué pour lui et pour d'autres. voilà, Bedos, il avait cette super relation avec son fils et je trouvais ça génial parce que voilà, il était un peu comme nous de ce point de vue-là et moi j'appréciais beaucoup ça.
Kevin, vous avez un... avec les enfants.
Oui. J'entends dire que Guy Bedos a marqué plusieurs générations, en tout cas pas la mienne. Moi, je dois dire que c'est pas quelqu'un, en effet, que j'ai connu. Moi, ce qui marque quand même dans Guy Bedos, c'est sa liberté d'expression. Je veux dire, il a fait des sketchs à l'époque où il pouvait dire librement des choses et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, où le politiquement correct règne en maître, il pourrait faire les mêmes sketchs. Donc, oui, c'était sans doute quelqu'un de très important, mais en tout cas, moi, j'ai pas connu tous ces sketchs de Guy Bedos.
C'était pas votre génération, non. Mais c'est vrai, on a repassé les textes. Alors, on a souligné tout à l'heure la coïncidence du décès de Guy Bedos deux jours après Jean-Loup Dabadie, qui était son frère. Et c'est vrai que ces sketchs Marrakech, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, puisqu'il imitait des beaufs en voyage à Marrakech, qui disaient « il y a beaucoup d'Arabes quand même ». Déjà, à l'époque, ça avait fait un peu de bruit. Mais le texte sur quand le type qui regarde le journal en parlant de salope, aujourd'hui, je pense qu'il aurait toutes les ligues de vertu contre lui. Voilà, bah écoutez, c'était un hommage qu'on rendait à Guy Bedos. Alexis, on va commencer avec vous pour votre coup de gueule footballistique.
Oui, un coup de gueule footballistique parce que je crois qu'on va se désoler dans les jours qui viennent de voir reprendre après le championnat d'Allemagne, le championnat d'Espagne, puis le championnat d'Italie, puis le championnat d'Angleterre, c'est-à-dire les grands championnats de football du continent européen. Ouais. Et la France, elle, semble-t-il, a définitivement enterré toute reprise de son propre championnat, ce qui, outre le fait que ça va nous priver quand même d'une fin de championnat qui n'était pas très passionnante, parce que le PSG écrasait la compétition... en Ligue 1 comme chaque année, mais quand même, il y avait quelques enjeux. Et surtout, je crois que ça va fragiliser durablement nos clubs à l'échelle européenne. C'est des modèles économiques extrêmement compliqués. Ils ont été frappés, comme toute autre activité économique, par la crise du Covid. Et on va, on essayait de rattraper notre retard par rapport au championnat concurrent. Et là, je pense que c'est un mauvais coup. Et j'ai l'impression en plus que ça a été pris sur des considérants qui sont un peu politiques, les relations entre le président de la fédération, Noël Le Granet, qui est un peu le parrain, la Ligue qui est un petit peu sous influence, il y a des dissensions entre les présidents de clubs. Et donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris des mesures comme dans les autres pays en se disant on va réactualiser les choses si ça va mieux, si il y a un recul de l'épidémie, on peut peut-être reprendre les matchs à huis clos, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de réouvrir les stades. Mais en Allemagne, le championnat a redémarré et les matchs restent de qualité et le championnat ira à son terme, comme en Espagne, comme en Italie et même comme en Angleterre. Donc c'est vrai que c'est un coup de gueule ce matin contre les instances du football français qui... sont en décalage par rapport à nos grands voisins européens.
Oui,
moi, je suis
commentaire.
Tout à fait d'accord avec Alexis. J'ai hâte d'entendre l'avis de Kevin sur le football, mais je suis tout à fait d'accord avec Alexis. Et c'est d'autant plus dommageable que je trouve que leurs institutions sont un peu à l'image de certaines de nos institutions pendant cette crise, et incapables de gérer l'incertitude et de revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en est, et de pouvoir réouvrir ce secteur, ce serait une très bonne chose.
Mmh. Ouais. Kevin, vous avez un avis sur la question ?
Oui, j'ai un avis sur tout. Alors, sur la rouverture, je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, moi j'ai des élèves qui sont passionnés par le football, on ne se rend pas compte à quel point le football joue un rôle important dans la vie de certains adolescents ou même de certains enfants. Pour eux, c'est un véritable rêve. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que sur toutes les annonces qui ont été faites sur la culture, je pense qu'on parle de théâtre, on parle d'opéra, enfin, on assiste sur une culture un petit peu élitiste, mais on ne parle absolument pas d'une culture populaire qui est quand même la culture footballistique. Enfin, je pense qu'en effet, on voit là encore cette distorsion entre Macron qui incarne une forme d'élitisme à la française et de l'autre, les milieux populaires qui sont encore une fois un petit peu délaissés.
Grand fan de foot et de l'OM, mon grand désarroi.
Valérie, peut-être rajouter un mot aussi.
Quand même.
Oui, Alexis.
Rajouter un mot sur le rôle que n'a pas joué ou aurait pu jouer Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a systématiquement été sur des lignes d'hyper frilosité. Elle a redit il y a quelques jours dans une déclaration que tant qu'il n'y aurait pas un vaccin, on ne pourrait pas refaire du sport normalement.
ce qui est complètement délirant quand on y réfléchit, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il y aura un jour un vaccin. Donc je pense que c'est des positions qui sont un peu étranges, un peu dogmatiques, alors que il y a des protocoles sanitaires hein, dans les grands clubs, il y a des sports, évidemment, on peut pas reprendre comme avant, mais il faut qu'on s'adapte. Et là, en France, vis-à-vis de quelque chose qui est extrêmement populaire, pas seulement le football, mais le sport d'une manière générale, depuis le début, on a en fait une ministre des Sports qui défend pas vraiment la pratique du sport et les sportifs, ni les clubs, et évidemment le gouvernement non plus. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de déconnexion, j'ai l'impression, comme si le sport finalement n'était pas quelque chose de... On a entendu le président de la République faire des conférences avec les responsables de la culture, par exemple, c'est très bien, mais ça donne l'impression qu'il y a des choses nobles et puis des choses moins nobles, quoi.
Mais est-ce qu'on serait pas en train de râler, Virginie, si on avait réouvert les stades? C'est-à-dire que je vois que de toute façon, quelles que soient les décisions, on n'est jamais content. Il y a toujours un truc qui va pas. Ce matin, je voyais Damien Abad qui râlait contre le plan d'ouverture, le plan de déconfinement qui n'allait pas assez loin. On aurait eu, si les stades, je prends pas position, je dis, on aurait eu aussi des voix qui se seraient élevées en disant mais comment on ouvre les stades? Souvenez-vous, le match au départ, c'est comme ça que il faut prendre des précautions. Virginie, vous avez un avis sur ça ou pas?
Alors, je ne suis pas une joueuse de football, je ne vous cacherai rien, mais il me semble que tout le secteur des activités sportives, c'est vrai, a été très mal relayé par ceux-là même qui auraient dû porter cette parole-là. Et que autant dans d'autres domaines comme le tourisme, la réouverture des hôtels, les restaurants, on a vu les chefs, les grands chefs, on a vu les porte-paroles de ce secteur s'exprimer beaucoup, très fort et très activement. Autant là, on a eu l'impression que les différents acteurs du sport, je ne sais pas si c'est par pusillanimité, par inertie, par manque de réaction, n'ont pas supporté cette parole-là, et c'est dommage, parce que là, je rejoins les autres intervenants. Le sport et le football en général ont une très grande vocation populaire, et c'est dommage de retarder de plusieurs mois le retour de ces activités-là dans notre pays.
Alors, quand même de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui quand même s'est fortement
exprimé
là-dessus.
Il était un peu seul,
mais enfin, ses positions, elles ont été relayées même au plus haut niveau des médias, puisque hier matin encore, il était sur une radio concurrente pour exprimer sa position en tant que chef d'entreprise, parce qu'il a construit un très beau stade et que c'est le seul à l'avoir fait, qu'en tant qu'animateur de premier plan d'un football européen, et puis aussi représentant des institutions du football, pour regretter cette espèce de frilosité.
Il a eu moins de succès que Philippe De Villiers.
On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour finir ce tour de table de l'actualité avec vous. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Allez, on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. On n'a pas fini notre petit tour de table de l'actualité avec nos débatteurs. Kevin Bossuet. Oui. Vous aviez une remarque à faire, un coup de gueule?
Voilà, un coup de gueule notamment contre le manque de coordination en Europe au niveau de la rouverture des frontières, notamment au sein de l'espace Schengen. Au début de la crise du coronavirus, les pays européens ont fermé progressivement leurs frontières, et heureusement, c'était une très bonne chose, car si le virus ne s'arrête pas aux frontières, ceux qui le portent, à partir du moment où ils les arrêtent, forcément... Il s'arrête aux frontières, et d'ailleurs les pays qui ont le mieux résisté à la crise sanitaire et économique, ce sont des pays qui d'emblée ont fermé leurs frontières. Je pense par exemple à l'Autriche de Sébastien Kurz. Sauf que maintenant c'est l'heure du déconfinement, et il y a des pays européens qui ont annoncé notamment qu'il fallait réouvrir. Sauf qu'il n'y a aucune coordination, on n'y comprend absolument rien. Vous avez des pays qui ont d'emblée annoncé qu'il y aurait une rouverture totale dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Je pense notamment à l'Italie ou encore à l'Espagne. Vous en avez d'autres qui n'ont décidé que de rouvrir entre eux. Je pense notamment aux Pays-Baltes qui n'ont rouvert leurs frontières contre la Lettonie, l'Estonie ou la Lituanie. Il y a d'autres qui veulent réouvrir comme le Royaume-Uni, mais imposer une quatorzaine. Moi, j'ai un ami qui devait partir 15 jours à Londres. Donc, le temps qu'il aille à Londres, le temps que la quatorzaine se passe, finalement, il va voir quoi? Il va pas voir la Tour de Londres, il va voir la fenêtre de son hôtel. Enfin, c'est complètement aberrant. Puis, il y a d'autres pays qui ont annoncé de manière très timorée qu'ils ouvrent, notamment pour seulement les étudiants ou les travailleurs comme la Pologne ou la Hongrie. Bref, on n'y comprend absolument rien. Et moi, ce qui me choque, c'est cette incapacité au sein de l'Union européenne à se mettre d'accord, notamment au niveau des rouvertures, à un moment où l'économie européenne doit repartir. Et puis même, la libre circulation des personnes, c'est quand même la base du projet européen. Et l'Europe n'est même pas capable de respecter cette philosophie au niveau du déconfinement. Et puis de manière plus générale, je trouve que l'Union européenne a eu une attitude dramatique au cours de cette crise. Elle a été aux abonnés absents. Donc au moment où les gens étaient confinés chez eux, complètement apeurés, complètement désespérés, vous avez quand même les dirigeants de l'Union européenne qui nous parlaient d'intégration des nouveaux pays. Donc bref, tout cela vient s'ajouter à ce qu'on a pu connaître au cours des dernières années, le non en 2005 en France, la montée des partis populistes qui prônent notamment une sortie de l'Union européenne ou encore plus récemment le Brexit. Et j'ai l'impression qu'on assiste encore une fois à un démantèlement progressif du projet européen et on se rend compte à quel point l'idéologie européiste est un véritable mirage.
Oui, mais vous avez raison, on a un petit peu de mal à comprendre un petit peu comment les choses vont pouvoir ou vont s'harmoniser dans les semaines qui viennent. Il faut peut-être laisser un peu de temps pour tout ça, que tout cela se mette en place. Jackie Isabello, les Français plébiscitent le Made in France, c'est votre coup de cœur.
Alors, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est un peu provoque. Les Français et les parlementaires, l'IFOP a fait une enquête. Ça m'amuse un peu parce que depuis le début de cette crise, j'entends dire on va privilégier le Made in France, on va relocaliser. Et depuis le début, je me disais bon. Alors donc, moi qui fais de la communication, j'attends la réaction des gens quand on va leur dire « Bon, alors on va installer une usine chimique à côté de chez vous parce qu'il nous les faut pour fabriquer les médicaments. » Et on sait que de toute façon, chez nous, dès qu'on construit un immeuble ou dès qu'on construit une usine, on n'en veut pas. Et j'en prends pour exemple ce qui a été annoncé récemment, parce que vous avez vu, on veut relocaliser, tout le monde est d'accord. Première annonce. Un plan de 8 milliards pour soutenir l'automobile et notamment l'automobile hybride ou électrique. Qui détient 95% des terres rares pour construire les batteries ? Les Chinois. Les Chinois qui ont fait en sorte que le fameux F-35, qui est un avion américain extrêmement performant, eh bien, cet avion ne peut pas décoller parce qu'il a besoin des terres rares chinoises qu'ils n'ont pas chez eux. Alors, pas qu'on ne puisse pas les produire, puisque la Nouvelle-Calédonie notamment, territoire français dont on ne parle d'ailleurs jamais dans tous les plans, en possède. Non pas qu'on n'en possède pas, mais c'est que personne ne souhaitera qu'on réouvre des mines en France pour relocaliser et se réapproprier cette fameuse souveraineté dont on n'arrête pas de nous parler. Donc vous voyez, c'était de dire, voilà, on s'emballe un peu dans cette période-là, mais demain, on en reparlera dès qu'on installera des usines chimiques pour fabriquer des médicaments français. Vous verrez que personne ne sera d'accord pour ouvrir cette usine en France.
Oui, même ceux qui disent qu'ils ont changé de comportement en achetant plus local et tout, est-ce que ce sont des comportements qui vont perdurer ? On peut se poser la question. Virginie ?
Le gay. Oui, alors je sais que mon coup de gueule a déjà probablement été beaucoup commenté depuis hier, mais moi je ne me remets pas, franchement, du coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard, et je ne me remets pas non plus d'avoir entendu ce matin Madame Sibeth Ndiaye dire « Ah, mais le président ne se pince pas le nez pour savoir à qui il doit parler, à qui il ne doit pas parler. Il a déjà appelé Cyril Hanouna et Éric Zemmour. » Au passage, Éric Zemmour doit être très content d'être mis dans la même catégorie que Jean-Marie Bigard, qui est quand même un amuseur. Si Éric Zemmour entend qu'il est comparé à Bigard, je pense qu'il ne va pas s'en remettre de tout le week-end. Mais pour autant, je trouve que cette utilisation de la fonction présidentielle extrêmement dégradée nous nuit à tous, nous les Français. Je ne suis pas sûre que le rôle d'un président de la République soit d'appeler quelqu'un qui est très, très, très offensif à son égard et qui, en plus, se comporte de façon, disons, assez populiste, pour ne pas dire plus. Alors, que fait Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il est en train d'essayer de ramener tous les populistes sur la scène pour minimiser l'impact éventuel de Marine Le Pen ? Je ne sais pas, mais je trouve ça humiliant pour nous tous.
Oui, alors on rappelle que Nicolas Sarkozy avait emmené avec lui Jean-Marie Bigard au Vatican, mais c'est vrai que ce que vous avez ajouté, c'est-à-dire des personnalités qui l'attaquent, ce matin, c'est vrai que moi j'ai vu cet article dans le Figaro présidentiel, Macron attentif à l'hypothèse Macron, à l'hypothèse Bigard, pardon. Donc d'une certaine manière,
on
crédibilise
en plein
le truc. Oui, mais c'est une tactique selon l'approche du chef de l'État. Et Emmanuel Macron en fait beaucoup avec tous ses coups de fil à Bigard et sa visite à Didier Raoul, grâce à un ministre. Il veut montrer qu'il ne se coupe pas de leur soutien. Mais est-ce vraiment efficace? Je ne sais pas si quelqu'un veut dire
non,
un mot là-dessus.
Non, mais ça, c'est de l'instrumentalisation. C'est de la basse communication. C'est de l'instrumentalisation des médias. C'est uniquement de l'instrumentalisation des médias parce qu'il sait que vous, les journalistes, vous allez faire vivre cette information, qu'on soit d'accord ou pas. Donc, c'est un peu comme la lessive. Ouais. Vous savez, en publicité, on dit toujours qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. L'important, c'est qu'on en parle. Et l'important, c'est que ce soit visible. Donc, cette position qui n'a que pour vocation d'être commentée dans les médias est une technique de manipulation des journalistes. C'est tout simplement.
Manipulation des journalistes. Bah écoutez, on en redit un mot dans un instant et puis on parlera des confinements, on parlera de Gérard Collomb. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour parler du déconfinement, pour parler de Gérard Collomb et puis peut-être une réaction à ce que disait Virginie Leguet à propos de Bigard et de la réponse de Jacky Isabello qui dit que ce sont les médias qui instrumentalisent en fait ce type d'informations. Je crois que vous vouliez réagir, Alexis Bachelet.
Bon, moi, j'ai réagi en disant que le président de la République consulte Jean-Marie Bigard pour relancer l'économie française. Bon, je crois que c'est fin de la blague, quoi. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ça paraît pas sérieux. On dirait qu'on est dans une mauvaise série, quoi. Voilà.
Mais c'est pas ça, hein. C'est ce que Patrick Sébastien, pardon de citer mes sources, a dit sur BFM, qu'il n'avait pas du tout appelé pour parler économie, mais qu'il l'appelait pour lui dire qu'il avait entendu son
appel sur la réouverture des bistrots.
Son appel. Mais,
oui, bah d'accord, voilà. Mais bon, quel est l'intérêt pour un président de la République, de la Ve République, de faire savoir.
Mais ils l'ont tous fait.
Non, mais ils l'ont tous fait. Mais là, il y a un plan de com. Il a raison, Jacky Isabello. C'est fait pour faire parler, pour faire savoir. Donc, est-ce que le président de la République pense que ça va rehausser sa gestion de crise? En plus, on est encore dans la gestion de crise. Donc, franchement, je trouve que c'est une parodie. Je vous dis, on se croirait dans une mauvaise série. Ils écriraient pas des choses aussi médiocres, quoi. Je vois pas l'intérêt, oui. je comprends pas. Voilà.
Oui.
Kevin Bossuet.
Moi, je suis complètement consterné. Enfin, j'entends parler de Jean-Marie Bigard ou de Cyril Hanouna comme candidat à la prochaine présidentielle, mais je crois que nous sommes tous en train de sombrer dans un abrutissement généralisé, une folie collective qui risque de faire perdre à la France le peu de crédibilité qu'il lui reste. C'est complètement consternant. Et à travers cet exemple, j'insiste encore là-dessus, parce que je pense que c'est le cœur du macronisme. Il y a un mépris total, notamment des milieux populaires, parce que croire que Jean-Marie Bigard incarne les milieux populaires, que les gens du peuple ressemblent à Jean-Marie Bigard, mais c'est méconnaître notamment tous ces gens modestes qui vivent en France. Et si demain je me rends compte que tous les Français ressemblent à Jean-Marie Bigard, je peux vous dire une chose, Valérie, c'est que je change de pays. Enfin bref, c'est complètement ridicule et il faut arrêter avec
il est très populaire, Jean-Marie Bigard, et il est très engagé, très sincère.
Oui, il est surtout très vulgaire. Il est surtout très vulgaire.
Oui, mais ça, c'est votre avis, mais ça n'empêche qu'il a un engagement. Il a un engagement. Il a été aux côtés des gilets jaunes. Je dis pas qu'il doit se présenter. Ce que je veux dire, c'est que la vulgarité ne limite pas son engagement auprès des.
On voit ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez raison, Valérie. Mais après, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est de comparer avec le mouvement 5 étoiles. Parce que Gianroberto Casalegno, qui a été vraiment la tête de ce mouvement, avait un vrai corpus idéologique, une vraie stratégie qui s'est déployée sur l'univers numérique, qui était un univers qui était peu cadenassé, et ils ont installé un vrai projet politique en utilisant comme porte-parole quelqu'un qui était un comique, mais qui était un comique qui avait une rhétorique comme des proches pouvaient en avoir une, comme Coluche en a une à un certain moment. Je crois qu'il faut pas comparer Bigard et ce mouvement 5 étoiles, après il parle à un certain électorat. Maintenant, si on considérait son intention politique, s'il en avait véritablement une, eh bien il pourrait y avoir un espace à partir du moment où la réflexion serait celle du mouvement 5 étoiles de structurer une vraie pensée politique avec un projet derrière. Ce qui, pour l'instant, est pas du tout le cas de Jean-Marie Bigard. Hein. On n'a pas vu Jean-Marie Bigard nous expliquer comment il faudrait réformer la gouvernance politique, revenir à d'autres façons de délire les représentants, etc., etc. Enfin, à ma connaissance, en tout cas.
Ouais. Allez, on va passer peut-être au sujet de Gérard Collomb qui se rallie à LR. Alors, est-ce que c'est une trahison? Est-ce que finalement LR et LREM, c'est très très différent? On rappelle quand même que Gérard Collomb a été le premier à quitter le Parti Socialiste pour se rallier à Emmanuel Macron. On se souvient de ses larmes le jour de la prise de possession de l'Élysée d'Emmanuel Macron, et donc prêt à tout pour garder sa mairie. Virginie Le Guay, vous en pensez quoi de ce ralliement? Est-ce que c'est symbolique de quelque chose?
C'est peut-être une journée où je n'ai que des déceptions, mais franchement, je trouve que la vieillesse dans le cas de Gérard Collomb est un naufrage, et qu'il ne soit pas capable de faire des choix politiques clairs et cohérents, et qu'il choisisse de tendre la main à la droite, qui est la droite Wauquiez, est tout à fait inadmissible. Soit on a un engagement politique clair et on l'assume jusqu'au bout, soit on agit en fonction d'intérêts locaux ou de sauvegarder encore ce qu'il peut encore essayer de sauvegarder de sa carrière politique. Et là, franchement, là aussi, c'est une trahison politique, et je trouve ça extrêmement dommage comme fin de carrière. Gérard Collomb a une carrière politique somme toute assez honorable. Son engagement auprès d'Emmanuel Macron était très très tôt, et on ne peut pas dire qu'il ait eu à ce moment-là des calculs bien particuliers. Et là, il termine sa vie publique de façon, je trouve, déshonorante.
Oui. Alexis Bachelet.
Oui, c'est un peu là une tambouille politique indigeste. Et d'ailleurs, je suis certain que ça sera sanctionné sévèrement par les électeurs lyonnais, oui, qui ont été attachés à Gérard Collomb, qui lui ont fait confiance pendant plusieurs décennies. Il a été maire pendant trois mandats successifs, donc c'est pas rien pour Lyon. Et là, je trouve qu'effectivement, il va sortir par la petite porte. Et en plus, derrière la tambouille politique, il y a aussi quand même un discours extrêmement conservateur et réactionnaire sur la question du climat et de l'écologie. Puisqu'en gros, Gérard Collomb dit « je m'allie avec la droite Wauquiez pour faire barrage à la coalition climat des écologistes », et donc en fait pour empêcher ce qui aujourd'hui est quand même une aspiration d'un nombre croissant d'électeurs, y compris à Lyon, puisque les écologistes sont arrivés en tête. Donc je trouve que c'est une manœuvre qui est indigne sur le plan moral, si on devait la qualifier, et qui politiquement sera durement sanctionnée par les électeurs, et je vous donne rendez-vous le 28 juin au soir.
Oui. Oui, Kevin Bossuet,
moi je trouve qu'on se rend compte encore une fois que le macronisme est une véritable arnaque. Je veux dire, on nous a vendu le macronisme comme un parti ouvert sur la société civile, comme un parti ouvert d'esprit qui acceptait le débat démocratique. Et là, on se rend compte qu'à partir du moment où on n'est pas dans la ligne dans les petits papiers de l'idéologie d'Emmanuel Macron, mais tout de suite, on est complètement viré de LREM, ou alors on est évidemment voué au hégémonie. Enfin, je pense notamment à Agnès Thiel, qui est une députée qui est très compétente, qui a quand même été virée de La République en Marche parce qu'elle a osé critiquer notamment le mariage homosexuel. Et moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est le deux poids, deux mesures. Hein. Il y a quelques jours, on a appris notamment que Laetitia Avia, qui est quand même une députée macroniste, hein, qui a fait voter la fameuse loi liberticide, la loi Avia, avait tenu des propos homophobes et racistes. Hein. Elle aurait dit notamment en privé qu'elle avait fait voter l'amendement des PD et elle aurait dit ça sent le chinois. Donc dans ce cas-là, pourquoi on vient reprocher à Gérard Collomb de s'allier avec la droite Wauquiez, qui n'est pas quand même l'extrême droite, hein, qui ne nous rappelle pas non plus les heures les plus sombres de notre histoire? Et de l'autre, il n'y a aucune sanction vis-à-vis de cette députée qui tient ouvertement des propos homophobes et des propos racistes. Voilà ce que c'est que le macroniste, une hypocrisie et une arnaque.
On peut parler de Monsieur Trompi aussi, qui est accusé de harcèlement sexuel et qui n'a pas été d'agression sexuelle même et qui n'a pas été exclu.
Oui, mais Valérie, on peut pas mettre sur le même plan des comportements individuels de gens qui, pour les uns, ont été sanctionnés ou pour d'autres le seront, et un accord politique en bonne et due forme qui incarne quand même une forme de compromission et de tambouille. Voilà, c'est là, ça n'engage pas que le comportement individuel de Gérard Collomb. Gérard Collomb, il y a des électeurs qui lui ont fait confiance pour voter pour lui.
Absolument, oui, non, c'est différent, je suis d'accord avec
vous. Là, il y a une tromperie manifeste et qui est quand même en démocratie.
Oui, mais Kevin parlait d'une tromperie générale sur LREM.
Oui, mais t'as d'accord,
les députés. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Avec Gérard Collomb, c'est vrai. Moi, je ne serais pas trop d'accord avec vous, parce que Lyon est une ville assez particulière, et il faut bien admettre une chose, c'est que Gérard Collomb n'a jamais été socialiste. Si Gérard Collomb a pris le pouvoir à Lyon...
Il était au Parti Socialiste.
Voilà, il était au Parti Socialiste. Mais rappelez-vous d'une chose, en 2001, quand Gérard Collomb gagne la mairie de Lyon, c'est avec l'aide de quelqu'un qui n'était pas socialiste et qui s'appelait Raymond Barre. Raymond Barre, juste avant, donc était le maire de Lyon, et Gérard Collomb, maire d'un arrondissement très populaire du 9e arrondissement, eh bien, Raymond Barre appréciait énormément Gérard Collomb. Et pendant toute la pré-campagne, exaspéré par une droite lyonnaise extrêmement proche de Jacques Chirac, Raymond Barre avait décidé que cette ville ne tomberait pas dans le giron des Chiraciens et ne tomberait pas dans le giron de Charles Millon. Et donc, pendant toute la campagne, il n'a cessé de dire du bien de Gérard Collomb et de mettre en avant sa force politique, parce que alors, je peux vous dire que François Hollande, c'était un champion du monde par rapport à Gérard Collomb, puisque Gérard Collomb, on l'a connu à 1% dans les intentions de vote. Il a réussi à être un grand maire de Lyon. Donc, cette ville, qui est une ville aussi qui est fortement industrielle, dans laquelle les industriels et les entrepreneurs ont beaucoup de poids, malheureusement, et pas forcément très attiré par l'écologie. Et donc, je pense que Gérard Collomb prend la mesure de tout ça. Alors, il loupe un peu sa sortie, et il l'avait déjà loupé en sortant maladroitement du gouvernement. Mais ce genre d'accord n'est pas contre-intuitif à Lyon, parce que ça a déjà été le cas. C'est une ville très compliquée qui a été dirigée avec des politiques de droite, mais menée par des radicaux socialistes comme Édouard Herriot, qui était un pilier du cartel de gauche. Donc, c'est une ville assez compliquée. De ce point de vue-là, Gérard Collomb n'est pas forcément en désaccord avec la manière dont les accords politiques ont pu se faire et dont il a bénéficié avec Raymond Barre à l'époque.
Et je suis
à voir, bien sûr, il a raison à voir.
Oui, j'aimerais
avoir. Pardon, Jackie, mais à Lyon, me semble-t-il, la liste écologique a fait un score tout à fait surprenant. Donc, attendez, j'ai pas terminé. Ce que vous dites de l'état d'esprit de Lyon n'est pas celui que vous décrivez. Et puis moi, je voudrais ajouter de façon plus générale que ces municipales manifestent la formidable contre-performance d'En Marche dans les grandes villes. Ne parlons pas de Paris, où le score d'En Marche aux dernières européennes était massif et où là, on s'achemine vers une défaite écrasante, pour ne pas dire humiliante. Ne parlons pas de Lyon, où on voit ce qui vient de se passer. Ne parlons pas de Marseille, où le candidat En Marche aurait pu profiter de la désunion de la droite pour faire un vrai score. Il y a là quelque chose de l'ordre d'un effondrement, comme si les choses sérieuses n'avaient pas été réellement mises en œuvre et comme si En Marche n'avait pas su faire fructifier son électorat là où il était. Et là, Gérard Collomb participe à cet effondrement.
Oui, je trouve que c'est un débat qui est trop franco-centré. Je veux dire, on est peut-être dans un moment où on peut accepter, en effet, qu'il y ait des alliances entre des partis qui peuvent être jugés, enfin des alliances qui peuvent être jugées improbables. Moi, je vois le cas autrichien. Regardez Sébastien Kurz, qui est le chancelier autrichien, qui pendant 2 ans s'est allié avec la droite de la droite et qui maintenant s'allie avec les écologistes. Mais ça pose problème à personne en Autriche. Peut-être qu'il serait temps en France, en effet, d'entrevoir d'autres alliances, et moi je ne trouverais pas scandaleux en effet qu'au niveau local, il y ait des alliances entre la droite conservatrice et les écologistes, ou qu'il y ait des alliances entre l'extrême gauche ou l'extrême droite. Pourquoi pas, après tout, arrêtons d'être trop...
Oui, mais à Lyon, c'est pas un accord contre-intuitif. Gérard Collomb a fait la métropole avec quelqu'un qui était un élu UDF qui s'appelait Michel Mercier, encore une fois, c'en est un deuxième d'exemple, adoubé par Raymond Barre. Il a fait cette métropole incroyable, qui a des pouvoirs que qu'aucune autre ville ne dispose, avec Michel Mercier qui a été le ministre de la Justice, de gouvernement droit. Donc c'est particulier.
Mais le parcours, le parcours de Gérard Collomb est quand même, enfin c'est son parcours qui interroge par rapport à ça. C'est sur la sincérité.
Mais jamais été de gauche, Gérard Collomb à Lyon. Dites à Lyon, Gérard Collomb est de gauche, tout le monde va se marrer. Enfin vous voyez.
Oui, mais on a Diane de Perpignan.
C'est un pragmatique. Enfin lui, il analyse les faits, il agit en conséquence. Il sait très bien le pragmatisme. Et quand Jean-Michel Blanquer, il y en a qui le disent de gauche, il y en a qui le disent de droite, mais la vérité, c'est qu'il n'est ni de gauche ni de droite, c'est juste un pragmatique. Et peut-être qu'on a besoin
de gens un
peu plus pragmatiques pour prendre des décisions à la hauteur des enjeux. Et moi, je trouve ça très bien.
Allez, on a Diane en ligne avec nous. Pardon, Diane qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Diane.
Oui, bonjour. Voilà.
Bonjour
tout le monde. Voilà, je vous écoute depuis tout à l'heure et je suis choquée de vous entendre tous là. Choquée.
Pourquoi ?
Choquée, mais alors à un point, quand vous dites « Oh, choquée parce que monsieur Collomb s'associe avec le LR », mais arrêtez, quand vous voyez toutes les élections, toutes, je vous parle aussi bien des maires que des présidentielles, toutes se rallient, plus ou moins, toutes. Et le macronisme, c'est quoi? C'est droite-gauche? Vous arrêtez de dire qu'il est droite-gauche, il a pioché dans toutes les... comment on appelle?
Tous les groupes.
Voilà, il a pris de droite, il a pris de gauche, il a pris du centre, il a pris de tout le monde. Arrêtez d'être choqué. C'est un macroniste, donc il a pris de tous les côtés. Et quand on
donc vous confirmez, vous dites que vous êtes choqué parce que vous entendez, c'est exactement ce qu'on disait juste avant.
Ah, mais c'est ce que je dis. On n'a pas à être choqué qu'il se rallie avec le LR. Qu'est-ce que c'est, ces histoires-là? Les seuls qui sont des girouettes et qui retournent leur veste quotidiennement, c'est les centristes, c'est les verts, qui vont à droite et à gauche, c'est des girouettes. Mais lui, il a fait la même chose, puisqu'il est du macronisme, c'est qu'ils sont tous des girouettes. Voilà. Bon. Ils retournent tous leur veste. Tous, il n'y en a pas un seul que de droite ou de gauche qui n'ont pas retourné leur veste.
Il y en a quand même qui ont des convictions, peut-être, non?
Ils ont des convictions, mais ils les mettent à la poche, ils les mettent derrière quand c'est leur portefeuille qui joue. Tous.
Bon, ça vous énerve. Voilà. Hein, on vous sent en colère.
Non,
merci
en colère,
de nous avoir...
un peu déçu d'entendre des gens qui se choquent sur des choses qui sont réalistes dans les mairies, dans les présidentielles, que ça se fait quotidiennement.
Merci de votre appel, Diane. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler déconfinement à partir de mardi. Donc la règle sera la liberté. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. On y revient dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. La liberté va redevenir la règle et l'interdiction sera l'exception. Ce sont les mots du Premier ministre hier. Est-ce que vous êtes satisfait des annonces qui ont été faites? Donc la réouverture des parcs et jardins, la réouverture des restaurants dans les zones vertes en orange. Ce seront uniquement les terrasses qui pourront rouvrir. Les lycéens, en revanche, en zone orange, ne pourront pas retourner dans leurs établissements. Et l'oral du bac a été purement et simplement annulé. Peut-être, Kevin, commençons avec vous. Vous êtes concerné au premier chef par ces mesures?
Oui, je suis concerné au premier chef par ces mesures. Mais moi, si vous voulez, je trouve que ça ne va pas assez loin, si vous voulez. Je prends par exemple l'exemple des restaurants. Enfin, je trouve aberrant, par exemple, que dans la région parisienne, qui est encore en orange, on ne puisse pas, notamment, rouvrir les restaurants complètement et qu'on se borne simplement en terrasse. Il y a plein de restaurateurs qui n'ont pas de terrasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Enfin, je veux dire, ils sont en train de s'écrouler de manière économique. Et puis, plus largement sur la rouverture, notamment, des collèges et des lycées, je trouve que c'est une très bonne mesure. Hein. J'ai défendu cette idée-là à plusieurs reprises. Hein. Le confinement a eu des effets complètement dévastateurs, des effets sociaux, notamment sur les élèves les plus modestes, et il est bon, en effet, que les élèves retrouvent le chemin de l'école. Le problème qui est en train de se passer dans l'éducation nationale, c'est que c'est un peu fait n'importe comment, si vous voulez. Donc, il y a une organisation qui est très localisée, avec certains élèves qui vont rentrer, d'autres élèves qui ne vont pas forcément rentrer dans certains établissements. On va plutôt faire rentrer ceux qui ont vraiment des difficultés. Dans d'autres, c'est les élèves dont les parents sont volontaires. Bref, je trouve qu'il y a un manque de flou artistique autour de cette ouverture des collèges et des lycées. Mais globalement, on va plutôt dans le bon sens. Maintenant, il faut repartir vers une vie normale. Nous avons besoin de bouger, nous avons besoin de liberté et nous avons surtout besoin de retrouver le chemin de la croissance économique.
Oui, mais aussi d'être prudent.
Oui, d'être prudent, mais je trouve qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'aspect sanitaire doit être vraiment mis en arrière, et aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect économique, parce qu'on va vers des problèmes sociaux qui vont être complètement catastrophiques, oui. Des problèmes de chômage, des problèmes de pouvoir d'achat, et je pense que l'urgence est là, c'est l'urgence économique.
Alors, qui veut réagir, Virginie, sur les annonces qui ont été faites donc hier,
est-ce qu'on va aller
au loin?
Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que l'aspect sanitaire doit être relégué derrière l'aspect économique. La crise sera amortie si l'aspect sanitaire a été bien géré. Si on doit revenir à un reconfinement parce que le déconfinement aura été trop rapide, franchement, ça va aggraver la crise économique. Et il vaut bien mieux avancer à pas compter, comme le fait Édouard Philippe, qui de 3 semaines en 3 semaines dessert quand même énormément le système. La liberté aujourd'hui est extrêmement grande et est en train d'être retrouvée. Et j'ajouterais une chose en plus qui me semble très importante. Édouard Philippe a plusieurs fois hier fait allusion à la récession historique qui s'annonce. Il l'a dit, le mot historique est de lui. Et il semble que la crise sanitaire se termine, mais qu'une crise économique s'ouvre. Et je répète bien, la crise économique pourra être abordée de façon sereine si la crise sanitaire est réellement derrière. Et ça, on ne le saura que après l'été. C'est en septembre que les rendez-vous vont se faire. C'est en septembre que l'on verra si le virus circule à nouveau. Et c'est en septembre que l'on verra si les licenciements, non pas des grandes enseignes qui vont être ceux dont on va parler, mais si les licenciements des petites entreprises vont commencer à se multiplier. Et c'est cela qu'il faudra regarder de près. Mais les petites entreprises ne pourront réouvrir et repartir que si la parenthèse de la crise sanitaire est bien refermée. C'est à moitié ouvert, à moitié fermé.
Oui, moi je suis d'accord, mais le problème central là-dedans, c'était quand même le problème des masques et c'était le problème du civisme des Français. Aujourd'hui, on a assez de masques, les Français ont un civisme exceptionnel, hein, ils mettent les masques, ils respectent la distanciation sociale, donc à partir de ce moment-là, moi je trouve que en effet, l'aspect sanitaire est derrière nous et maintenant il faut faire place à l'aspect économique parce qu'on a des garanties pour que le virus ne reparte pas et maintenant on sait contrôler ce virus avec les conditions qu'on a mis en place.
Jackie, Isabello.
Écoutez, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Je suis assez d'accord avec eux. Et même pourquoi pas l'inverse, comme disait l'autre. Non. Ce qu'on peut noter, c'est que je trouve que le Premier ministre s'installe bien dans la gestion de cette crise. Et notamment, ils ont enfin compris qu'il fallait faire confiance aux Français hier. Il l'a plusieurs fois dit en disant qu'il fallait laisser les gens agir sur le terrain et ça maintenant à la fin de cette crise on sent qu'ils ont compris comment il fallait faire, donc de ce point de vue là on peut s'en féliciter. Moi je vais vous donner un avis personnel qui n'est pas forcément analytique, c'est je suis très surpris par la place de l'école pendant cette crise. Quand on regarde les chiffres maintenant, parce que Santé publique France les a analysés, il n'y a aucun risque avec les gamins. Ceux qui vont vraiment morfler, j'espère que Kevin sera d'accord avec moi, c'est vraiment les mômes. Moi, je les vois autour de moi, ils se sentent abandonnés, ils ont envie de retourner à l'école. Même si on fait 2-3 semaines de cours, voire même allongé sur le mois de juillet, il faut les faire rebosser. Ces gamins, ils ont perdu 3-4 mois. Pour certains qui vont rentrer dans des classes charnières, ça va être extrêmement difficile par rapport à l'école. Alors on sait que l'éducation nationale adore tous ces protocoles de 60 pages, cette école qui appelait un ballon un objet bondissant. Bon,
là, référentiel bondissant.
Avec les gamins, il n'y a plus aucun risque. Il faut les laisser retourner à l'école, qu'on leur mette un masque. Qu'on mette un masque aux profs parce qu'ils n'ont pas à être de la chair à canon, mais n'en faisons pas trop non plus. Mais dans cette dernière étape, moi, très honnêtement, je suis surpris qu'on mette autant de temps à reprendre l'ensemble des gamins pour que ils retournent dans cet endroit qui est indispensable pour leur vie de futur professionnel, tout comme pour leur vie sociale, cette école. Et ça va beaucoup trop doucement, je trouve.
Oui. On a un auditeur qui nous dit: chez moi en banlieue, zéro respect pour le confinement du début à la fin, food, barbecue, bis, groupe de plein de gens, et quand la police a voulu faire de l'ordre, bah, même pas le temps de défendre de la voiture mortier et autres. Donc ça c'est un message parmi d'autres, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi du non-respect du confinement et pas que dans les banlieues, dans d'autres endroits. Alexis Bachelet sur le déconfinement. Alors attendez, je crois qu'on a un auditeur en ligne avec nous. On a Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre.
Bonjour. Écoutez, bonjour. Je crois qu'on a confiné. Bonjour. On a confiné.
On vous entend pas, Pierre. Allez-y.
Vous mieux? Oui, je disais, on a dupliqué donc les mesures qui sont des mesures communistes chinoises et qui sont pires qu'en 1940, puisqu'il existait des zones libres en 1940. Moi, je crois que aujourd'hui, nous avons au pouvoir des administratifs qui sont de seconde zone. À mon sens, cette histoire de déconfinement telle qu'ils le présentent sont vraiment archaïques, ne sont absolument pas plausibles.
Ah, on vous entend plus. Voilà. On vous entend très mal. Alors, on est obligé de vous interrompre. Je vais donner la parole à Alexis Bachelet qu'on n'a pas entendu sur le déconfinement. En tout cas, on sent un certain soulagement chez nos auditeurs. Alexis?
Oui, je crois que de toute façon, on a tous conscience que si on a une tendance qui continue telle qu'on l'a vécue ces derniers jours, on va aller vers un déconfinement quasi total avec évidemment le respect des gestes barrières et surtout le port du masque. En réalité, si vous voulez, par rapport à l'Asie, où dès le début d'une épidémie, tout le monde porte le masque, et donc à part la Chine, mais la Corée par exemple, ou Taïwan, ou d'autres pays n'ont pas fait de confinement généralisé, parce qu'ils étaient équipés dès le départ de la crise avec des masques, parce qu'ils avaient l'habitude de ces crises épidémiques, et parce qu'ils avaient rapidement aussi des tests, et que quand les gens étaient testés en nombre, ils pouvaient aussi isoler plus rapidement les cas positifs que nous ne l'avons fait. Donc nous, on a été obligés d'en passer avec les autres pays européens, qui n'étaient pas forcément mieux préparés, par un confinement collectif lourd. Et je pense qu'à l'avenir, on devra envisager de ne pas reconfiner de la même manière si le virus revenait. Je pense que simplement, il faudra que les Français apprennent à porter des masques, apprennent à se laver les mains, qu'on garde la distanciation sociale. Mais effectivement, on ne peut pas imaginer maintenant être confiné comme on l'a été pendant les deux premiers mois, ad vitam aeternam, parce que là, ça veut dire qu'effectivement, notre société, notre économie s'effondre. Donc ça, c'est pas non plus possible. Il faut qu'on soit en capacité de rebondir après la crise sanitaire. Et je pense que le rebond, en espérant effectivement que les indicateurs sanitaires restent au vert, il est pour la fin du mois et que on pourra tous, si on peut faire cette prédiction, partir en vacances.
Eh bien, écoutez, nous verrons et on rejoint ce que disait Kevin au début. On espère que les pays Schengen vont se mettre d'accord pour ouvrir les frontières. Merci à tous les quatre. Très bon week-end. Dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous sur Sud Radio. À lundi. Très bon week-end. On sera là lundi en direct avec vous.